Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. La Guinée a un nouveau premier ministre. Il s'agit d'Ibrahima Kassori Fofana, ancien ministre d'État à la présidence, nommé au poste de chef du gouvernement lundi soir par le président Alpha Condé. Bien connu du public, cet ex-candidat à la présidentielle de 2010 et ancien ministre du général Lansana Conté doit faire face à plusieurs défis, notamment l'organisation des élections législatives, la crise politique qui bloque l'installation des conseillers communaux élus et au plan des infrastructures, le manque d'électricité. Le portrait du nouveau Premier ministre guinéen avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le nouveau Premier ministre semble avoir le secret de la présidence de la République. Certains le qualifient de super-ministre. L'homme était, dit-on, le chouchou du général Lansana Conté, dont il fut le ministre du budget, ensuite celui de l'économie et des finances. Donkas, comme l'appellent ses proches, est un économiste qui s'intéresse à la politique après un long séjour aux États-Unis. Il perd dès le premier tour de la présidentielle de 2010 avant de soutenir le candidat Alpha Condé face à celui de l'Indien. Diallo au second tour. L'une des actualités d'Ibrahima Kassori Fofana est la fusion de son parti avec le RPG arc-en-ciel parti au pouvoir. Et pourtant, l'homme fut amer envers le pouvoir en place il y a quelques années. Certains observateurs le considéraient comme celui qui a obtenu la plus petite part du gâteau. En février 2016, il signe son retour en tant que ministre d'État à la présidence chargée des questions d'investissement et du partenariat public-privé. Il voyage beaucoup avec le président Condé. Kassori défend l'homme qu'il critiquait avant, mais le premier ministre guinéen, c'est aussi la promotion des jeunes. Le plus jeune député à l'Assemblée nationale de Guinée vient de son parti. Docteur Ibrahima Kassori Fofana doit former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Procès du général Jean-Marie Michel Mokoko au Congo-Brazzaville. Les avocats français du général Mokoko, l'opposant congolais récemment condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ont demandé ce mardi au Fonds monétaire international de subordonner l'accord récemment conclu avec la République du Congo à la cessation de la répression des opposants politiques dans le pays. Les deux avocats, maître Jessica Finel et maître Étienne Arnaud, ont une nouvelle fois dénoncé ce qu'ils appellent un procès purement politique, marqué par l'ingérence de l'exécutif et le mépris du droit au procès équitable, et dont l'objectif est selon eux la neutralisation politique d'un opposant particulièrement gênant pour le pouvoir. Politique en République démocratique du Congo, à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi sur la situation dans le pays, les Nations Unies ont demandé aux autorités de Kinshasa de lever l'interdiction de manifester et d'appliquer immédiatement et pleinement des mesures de confiance dont l'accès à l'espace public. Le point avec Irénée Herman Ongbo.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà réclamé à Kinshasa de lever cette interdiction. Les membres du Conseil de sécurité ont aussi souligné la nécessité de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les élections du 23 décembre soient organisées dans les conditions de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité, rappelant l'importance de prendre des mesures d'urgence pour restaurer la confiance entre les acteurs du processus électoral. Les 15 encouragent toutes les parties congolaises à appliquer le calendrier électoral. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016, la Constitution lui interdit de se représenter. L'opposition reproche à M. Kabila son silence sur ses intentions, ce qui suscite moult réactions et inquiétudes à la fois dans le pays et dans le monde.
Et toujours en RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait état du lancement d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Une épidémie qui a déjà fait 27 morts. La campagne a démarré hier à Mbandaka, chef-lieu de cette province, et va s'étendre à Bikoro le 26 mai. Au micro d'Idriss Fall, le docteur Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé, a donné des assurances sur l'efficacité du vaccin.
C'est un vaccin qui est au stade 3B des essais cliniques. Stade 3B, ça veut dire que c'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Donc l'efficacité ne doit plus être prouvée. Toutes les personnes qui ont été vaccinées en période d'incubation ne développent pas la maladie. Et donc 3B, c'est un vaccin dont l'efficacité est prouvée, mais qui est en attente d'autorisation de commercialisation.
Le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la RDC.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burundi, approbation par référendum à une large majorité de la réforme constitutionnelle qui permet potentiellement au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Les États-Unis mettent en doute la transparence du processus et dénoncent un climat de peur et d'intimidation. Le point avec Ekia Badou.
Selon le département d'État, le référendum qui s'est déroulé le 17 mai au Burundi a été corrompu. Les États-Unis dénoncent la pression, l'intimidation des électeurs par un climat de peur et déplorent aussi l'absence d'observateurs pour veiller à la transparence du référendum. Washington appelle Bujumbura à respecter l'accord d'Arusha ainsi que la liberté d'expression, d'assemblée et d'association de tous les Burundais. La nouvelle constitution, si elle est validée par la Cour constitutionnelle, permettra au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Il va concentrer tous les leviers du pouvoir exécutif et son parti, le CNDD-FDD, aura la main mise sur toutes les institutions. La coalition menée par le principal opposant à l'intérieur du pays, Agathon Rwasa, a annoncé qu'elle ne reconnaissait pas les résultats. Du côté de l'opposition en exil, Monsieur Jean Minani du CNARED promet d'user de tous les moyens pour empêcher le président Pierre Nkurunziza de détruire la démocratie.
En Égypte, l'armée égyptienne a intensifié les démolitions d'habitations, locaux commerciaux et fermes dans la région du Sinaï depuis le lancement en février d'une vaste campagne militaire contre les djihadistes. C'est ce qu'annonce dans un communiqué ce mardi Human Rights Watch, l'organisation internationale de défense des droits de l'homme basée à New York. Human Rights Watch indique que les destructions concernent des centaines d'hectares de terres agricoles et au moins 3000 immeubles résidentiels et commerciaux, ainsi que 600 bâtiments détruits en janvier. L'organisation de défense des droits humains dénonce ce qu'elle appelle des démolitions illégales qui ont parfois eu lieu dans le cadre de représailles contre des individus suspectés de terrorisme, ainsi que des dissidents politiques et leurs proches. Actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui son homologue sud-coréen Moon Jae-in pour évoquer son prochain sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, une réunion sur laquelle plane maintenant une certaine incertitude. Messieurs Trump et Moon, qui se sont entretenus ce week-end par téléphone, se retrouveront au milieu de la journée dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Aucune conférence de presse commune n'est au programme. Au cœur des débats, la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, que Washington veut complète, vérifiable et irréversible, et sur laquelle le Nord, la Corée du Nord, bien sûr, n'a pas véritablement dévoilé son jeu. Actualité américaine toujours, les États-Unis ont promis lundi d'imposer à l'Iran les sanctions les plus fortes de l'histoire pour que Téhéran se plie à une liste de 12 exigences draconiennes en vue d'un nouvel accord beaucoup plus vaste après le retrait américain controversé du texte sur le nucléaire iranien. Cette décision prévoit le rétablissement total des sanctions américaines avec un effet collatéral dénoncé par le vieux continent. Les entreprises européennes devront abandonner leur présence en Iran si elles veulent garder l'accès au marché américain. Et toujours concernant le dossier nucléaire iranien, les États-Unis ne peuvent pas décider seuls pour l'Iran et le monde. C'est ce qu'a affirmé lundi le président iranien Hassan Rouhani en réaction aux propos du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a menacé Téhéran des sanctions les plus fortes de l'histoire. Plus de détails avec Jacques Aristide.
L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient, a déclaré le secrétaire d'État américain en présentant hier la nouvelle stratégie des États-Unis après le retrait du pacte sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015 entre Téhéran et des puissances mondiales. Washington appelle l'Iran à se plier à ses conditions draconiennes pour conclure un nouvel accord beaucoup plus large. Le monde d'aujourd'hui n'accepte pas que les États-Unis décident pour lui. Qui êtes-vous pour décider pour l'Iran et le monde? L'époque de telles déclarations est révolue, a répliqué le président Hassan Rouhani. Le peuple iranien a entendu des centaines de fois de tels propos et n'y prête pas attention, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État américain a prévenu que les entreprises européennes qui continueraient de faire affaire en Iran dans des secteurs interdits par les sanctions américaines seraient tenues responsables. Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, il sera très difficile de conclure un nouvel accord plus vaste avec l'Iran, comme le souhaite Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.